31 jours en poésie, périple entre le vert et le bleu. La nature vue par les poètes francophones. Éric Sénat présente La prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France, de Blaise Cendrars.
Tout le monde parle des couchers de soleil. Tous les voyageurs sont d'accord pour parler des couchers de soleil dans ces parages. Il y a plein de bouquins où l'on ne décrit que les couchers de soleil des tropiques. Ouais, c'est vrai, c'est splendide. Mais je préfère de beaucoup les levées de soleil, l'aube. Je n'en rate pas une. Je suis toujours sur le pont, à poil, et je suis toujours seul à les admirer. Mais je ne vais pas les décrire, les aubes. Je vais les garder pour moi, tout seul. Je passe la plus grande partie de la nuit sur le pont. Les étoiles familières de nos latitudes penchent sur le ciel. L'étoile polaire descend de plus en plus sur l'horizon nord. Orion, ma constellation, est au zénith. La voie lactée, comme une fente lumineuse, s'élargit chaque nuit. Le chariot est une petite brume. Le sud est de plus en plus noir devant nous. Et j'attends avec impatience l'apparition de la croix du sud à l'est. Pour me faire patienter, Vénus a doublé de grandeur et quintuplé d'éclat. Comme la lune, elle fait une traînée sur la mer. Cette nuit, j'ai vu tomber un bolide. Je me promène sur le pont, dans mon complet blanc acheté à Dakar. Au pied, j'ai mes espadrilles achetées à Villa Garcia. Je tiens à la main mon bonnet basque rapporté de Biarritz. Mes poches sont pleines de caporal ordinaire. De temps en temps, je flaire mon étui en bois de Russie. Je fais sonner des sous dans ma poche et une livre sterling en or. J'ai mon gros mouchoir calabré et des allumettes de cire, de ces grosses que l'on ne trouve qu'à Londres. Je suis propre, lavé, frotté, plus que le pont. Heureux comme un roi, riche comme un milliardaire, libre comme un homme.
Merci beaucoup, Éric, pour cette lecture prenante. Mais une question me vient. Quel est l'intérêt? Pourquoi la lecture à voix haute?
Je pense que dans la lecture à voix haute, il y a la notion de partage. Parce que cette lecture à voix haute, elle n'est pas faite simplement pour le lecteur. C'est le lecteur qui désire partager un texte qu'il aime, qu'il apprécie, un texte qui le touche. Et donc, on lit pour les autres. On ne lit pas pour soi. Même si ça fait plaisir de lire pour soi-même, puisqu'on aime ce texte, a priori. Mais on lit vraiment pour offrir le texte à autrui. Je pense qu'il y a une dimension émotionnelle dans la lecture à voix haute. Je pense que d'abord, quand on prend un texte, il faut qu'il y ait une rencontre entre le lecteur et le texte. Par exemple, moi, il y a des textes qui ne me touchent pas, qui ne m'intéressent pas, et que quelquefois, je suis amené à les lire, mais j'ai quand même du mal à le lire. Je ne sais pas comment dire, j'ai du mal à m'y impliquer plus que ça. Par contre, quand tout d'un coup, le texte me fait une résonance absolue, j'ai l'impression qu'il vient vers moi et qu'il est pour moi, en fait. Là, il y a un plaisir formidable à pouvoir le dire, à pouvoir l'offrir. C'est vraiment... cette dimension personnelle que je voudrais souligner. Et puis, c'est comment on exprime sa sensibilité, comment on exprime son émotion à travers les mots d'un autre. Et souvent, quand même, on est amené à avoir les mots d'un grand auteur, d'un grand poète. Moi, je n'écris pas, par exemple, mais j'adore les mots des poètes. Et j'ai envie que ces mots-là soient connus par d'autres. C'est pour ça que je parlais de Blaise Cendrars. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à dire du Blaise Cendrars. J'espère d'ailleurs qu'on va le sentir dans l'autre extrait qui va suivre.
Tout à fait. Et quels conseils vous pourriez donner pour des professeurs de français langue étrangère, par exemple, qui aborderaient la lecture à voix haute avec leurs élèves ?
Je pense que la première chose, c'est la compréhension du texte. Quand on lit un texte qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, déjà dans le sens, c'est très difficile d'y mettre de l'affect, c'est très difficile d'y mettre sa propre sensibilité si on ne comprend pas vraiment ce qu'on lit. Donc c'est quand même bien comprendre. Après, ici, à Athènes, il faut aussi que les élèves prononcent correctement. Donc il y a un travail de compréhension, de prononciation. Et après, une fois que ce travail est fait, après c'est que l'élève, là aussi, puisse mettre en jeu sa propre personnalité. C'est vraiment important de comprendre qu'avec le même texte, si on a deux lecteurs, le texte sera lu de façon différente, à deux reprises. Parce que, je vous le dis, hein, c'est vraiment important d'y mettre sa propre personnalité, sa propre émotion.
Merci beaucoup. Je suis sûre que ce sont des conseils qui serviront beaucoup aux professeurs de français langue étrangère en Grèce. Nous allons maintenant écouter la deuxième lecture de Blaise Cendrars par Eric Sena.
Le portugais Pedro Alvarez Cabral s'était embarqué à Lisbonne en l'année 1500 pour se rendre dans les Indes orientales. Des vents contraires le portèrent vers l'ouest et le Brésil fut découvert. Un cargo pointe vers Pernambuco. Dans la lorgnette du barman, c'est un vapeur anglais tout recouvert de toile blanche. À l'œil nu, il paraît enfoncé dans l'eau et cassé par le milieu, comme la série des cargos américains construits durant la guerre. On discute ferme à ce sujet quand j'aperçois la côte. C'est une terre arrondie, entourée de vapeurs chromées et surmontée de trois panaches de nacre. Deux heures plus tard, nous voyons des montagnes triangulaires, bleues et noires. La côte du Brésil est semée d'îlots ronds, nus, au milieu desquels nous naviguons depuis deux jours. On dirait des œufs bigarrés qu'un gigantesque oiseau a laissé choir, ou des fientes volcaniques, ou des sphinctéas de vautours. C'est curieux. Depuis deux jours que nous sommes en vue des terres, aucun oiseau n'est venu à notre rencontre ou se mettre dans notre sillage. Par contre, aujourd'hui, à l'aube, comme nous pénétrions dans la baie de Rio, un papillon, grand comme la main, est venu virevolter tout autour du paquebot. Il était noir et jaune, avec de grandes stries d'un bleu déteint. Tout le monde est sur le pont. Nous sommes au milieu des montagnes. Un phare s'éteint. On cherche le pain de sucre partout, et 10 personnes le découvrent à la fois dans 100 directions différentes, tant ces montagnes se ressemblent dans leur piriformité. Monsieur Lopart me montre une montagne qui se profile sur le ciel comme un cadavre étendu et dont la silhouette ressemble beaucoup à celle de Napoléon sur son lit de mort. Je trouve qu'elle ressemble plutôt à Wagner, un Richard Wagner bouffi d'orgueil ou envahi par la Grèce. Rio est maintenant tout près et l'on distingue toutes les maisons sur la plage. Les officiers comparent ce panorama à celui de la Corne d'Or. D'autres racontent la révolte des forts. D'autres regrettent unanimement la construction d'un grand hôtel moderne, haut et carré, qui défigure la baie. D'autres encore protestent contre l'abrasage d'une montagne. Penché sur le bastingage tribord, je contemple la végétation tropicale d'un îlot abandonné. Le grand soleil qui creuse la grande végétation. Une petite barque montée par trois pêcheurs, ces hommes au mouvement lent et méthodique, qui travaillent, qui pêchent, qui attrapent du poisson, qui ne nous regardent même pas, tout à leur métier. On a hissé les pavillons, le jaune pour demander la visite de la santé, le bleu pour demander la police, le rouge et blanc pour demander la douane, celui constellé des chargeurs réunis, et le bleu, blanc, rouge, et le brésilien. Il y en a encore deux que je ne connais pas. Les passagers admirent les constructions déconfites de l'exposition. Des vedettes, des ferries vont, viennent, et des grandes voiles latines, très lentes, comme sur le lac de Genève. Le soleil tape, un aigle tombe. On est enfin à quai. Un quai rectiligne, moderne, armé de grues de Duisbourg. Des mouchoirs s'agitent, on se fait des signes. Blanc Boubou, Boubou Blanc m'a déjà oublié. Elle découvre dans la foule un long zigoto cuivré très chic et indolent que je crois bien avoir déjà rencontré à Paris. Elle est émue. C'est beau. Puis il fait signe de retenir un porteur et lui fait comprendre par cri et par geste qu'elle a 5 malles de cabine et beaucoup d'autres bagages, des grands et des petits. Moi, je sais même tout ce qu'elle a dans ses malles, car je les lui ai bouclées ce matin, alors qu'elle avait presque une crise de nerfs. Au revoir, Gosselette, Gosseline. Elle passe maintenant la coupée au bras de son type, fin comme un chevreuil, inquiétant et attirant, comme tout mélange princier de sang blanc et noir. Je songe au grand gris-gris créole qu'il porte dans sa culotte. Une voix monte du quai. « Est-ce que Monsieur Blaise Cendrars est à bord ?»« Présent. » 12 chapeaux s'agitent. Je débarque et l'on me photographie. Une heure de taxi le long de la plage. Vitesse, klaxon, présentation, rire. Jeunes gens, Paris-Rio, Brésil, France, interview, présentation, rire. Nous allons jusqu'à la grotte de la presse. Puis nous rentrons déjeuner en ville. Les plats ne sont pas encore servis que déjà les journaux parlent de moi et publient la photo de tout à l'heure. Bonne cuisine du pays, vin portugais. À 14h tapante, je suis à bord. Un jeune poète sympathique dégobille sur le pont. Je le ramène à terre où son compagnon dégobille à son tour. Les autres n'ont pu suivre. Je monte me plonger dans la piscine tandis que le Formose appareille. Vive l'eau. Le soir tombe sur la côte américaine. Pas un poisson, pas un oiseau. Une chaîne continue de montagnes uniformes, toutes recouvertes d'une végétation luxuriante. La mer est unie, le ciel aussi. Je pense aux 2 amis que je me suis fait à bord et qui viennent de me quitter à Rio. Monsieur Lopart, agent de change à Bruxelles, gentil, charmant, qui me tenait tête à table ou le soir au fumoir devant une bouteille de whisky. Et Boubou Blanc, Blanc Boubou, la meilleure des copines, avec qui je nageais des heures dans la piscine, matin et soir. À nous trois, nous faisions un groupe très gai, qui pleurait aux larmes à force de rire. Nous avons embêté tous les Allemands à bord, scandalisé les fonctionnaires, militaires, en mission. Je n'ai jamais autant ri depuis 10 ans, et ri durant 20 jours. J'étais malade de rire et augmenté de 6 kilos. Au revoir, mes bons amis. À bientôt. Nous nous retrouverons à bord en rentrant en France, ou un autre jour, à Paris, ou à Bruxelles, ou ailleurs dans un train qui franchira les Andes, ou à bord de l'Empress qui cinglera vers l'Australie. Nous aurons toujours le même barman, car le monde est bien petit pour d'aussi gais compagnons. À bientôt. À bientôt.
C'était 31 jours en poésie. Aujourd'hui, Eric Sena, comédien, metteur en scène, directeur du théâtre de l'imprévu, vous a présenté un extrait de La prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France, de Blaise Cendrars. Nous vous donnons rendez-vous demain sur les ondes d'AthénaVox, la radio de l'Institut français de Grèce, pour une nouvelle émission de 31 jours en poésie.